Le hockey de A à Z, en passant par le CH, avec Marc-Antoine Godin.
C'est le moment de retrouver Marc-Antoine Godin d'Athlétique.com. Bonsoir Marc-Antoine.
Bonsoir Martin.
Ça a été la semaine Carey Price. Ça a été la semaine Carey Price parce qu'il a continué de bien performer, mais parce qu'il a dépassé Jacques Plante avec ses 315 victoires. Il s'en souhaite probablement une 316e ce soir. C'est un exploit assez particulier. Ce sont des records qu'on pensait peut-être pas inatteignables, mais quand on a vu le chemin parcouru par Price, on se demandait s'il atteindrait ces sommets-là.
Oui, effectivement, c'était à un certain moment, autour de 2010, lui-même se posait la question au moment où Yaroslav Halak lui a ravi le filet, le poste de partant. Il s'était posé la question de savoir quel avenir il y a pour moi à Montréal. Et il était très soulagé quand il a constaté que le Canadien avait échangé Halak aux Blues de Saint-Louis. Ça lui a donné un vote de confiance. Et à compter de ce moment-là, je pense qu'il a remis sa carrière sur les rails. Je me souviens très bien que dans l'année suivante, le défenseur Paul Mara nous avait dit « C'est durant le temps où il était au bout du banc et où il n'a pas joué, où il est devenu un homme. » Alors, je pense qu'à compter de ce moment-là, il a appliqué une bien meilleure éthique de travail pour aller au bout de son talent, puis ça a payé dans les années qui ont suivi.
Et beaucoup de gens pensent que quand Yaroslav Halak lui a pris sa job sur l'espace de quelques mois, ça a été dur de réaliser pour lui qu'un moins talentueux que lui pourrait lui enlever son travail.
Ben ouais, parce que c'est pas seulement une question de talent, c'est une question d'effort. Puis je pense que ça nous paraît évident de le dire comme ça, sauf que chaque joueur dans sa bulle a sa propre auto-évaluation. Il y a des joueurs qui ont une meilleure auto-évaluation que d'autres. Puis ça fait une différence sur le fil d'une carrière, sur comment tu vas gérer ta carrière, comment tu vas exploiter ton talent à force de travail. Alors lui, je pense que Price, à un moment donné, a fait cette réalisation-là, mais il y en a d'autres qui le font beaucoup plus tard dans leur carrière, puis ça fait en sorte que leur résultat ou leur bilan en bout de ligne n'est pas aussi reluisant que ça aurait pu être.
La famille Plante semble être très fière que ce soit Carey Price qui ait dépassé leur père, leur oncle.
Oui, absolument. Mais là, on a vu ce soir Michel Plante qui participait à la cérémonie honorant Price. Et puis, j'ai parlé à M. Plante il y a quelques jours. Et puis, il me disait effectivement que il était content que ce soit Price qui ait battu le record de son père. D'abord, il s'attendait à ce que le record soit battu à un moment donné, étant donné le nombre de matchs qui sont joués, étant donné le fait qu'il y a des victoires qui sont remportées en prolongation et tout ça. Mais c'est à cause du fait que Price a été en mesure de s'accrocher non seulement malgré les blessures, mais malgré tout l'environnement de Montréal, malgré le fait que l'équipe a eu des déboires également, et le fait qu'il ait réussi à naviguer malgré cette adversité-là. Il dit « Je suis très content pour Carey », puis il dit « Je trouve que c'est lui qui mérite de battre le record de mon père ». Alors, je trouve ça intéressant de voir que le fils de Jacques Plante n'est pas du tout acrimonieux à l'égard du fait que « Ah, mais là, mon père n'a plus le record », mais au contraire, il est tout à fait en paix avec ça, puis il identifie les défis auxquels un gardien plus jeune a été confronté, qui sont des défis évidemment complètement différents de ceux auxquels Plante a été confronté à son époque.
Les deux équipes qui s'affrontent ce soir ont des réalités à peu près semblables. Ils se battent avec l'énergie du désespoir pour rentrer en série cette année. Les Blackhawks sont plus loin que le Canadien, mais par contre, les Blackhawks sont encore dans leur formation, des gars qui ont gagné la Coupe, qui savent comment jouer ces fameux matchs. Les deux équipes essaient de revenir au top tout en ne perdant pas trop de plumes. Ouais. Est-ce qu'ils réussissent bien?
Ben écoute, c'est une année de transition pour les Blackhawks de Chicago. Tu sais, on entendait Marc Bergevin parler de reset au début de la saison.
De construction, là.
C'est ça, exactement. Ce qui est pas, c'est difficile de trouver. Il y a un tas de synonymes en français qu'on va trouver, un réusinage ou quoi que ce soit. Bon, mais les Blackhawks, c'est ce qu'ils essaient de faire. Ils vont peut-être manquer de temps cette année, mais leur objectif, c'est de revenir dans le coup la saison prochaine, de continuer de tabler sur le fait que Taves et Kane sont encore tout à fait capables de donner un rendement optimal, sont pas trop vieux, et ça va être de recréer un environnement pour les entourer, ces joueurs vedettes-là. Alors, parce que Stan Bowman n'est pas du tout intéressé à recommencer une construction. Oui, c'est ça. Alors, lui, passer 4-5 ans là, à tout reconstruire, ça y tente pas. Alors, et dans cette optique-là, l'échange qu'ils ont fait avec les Coyotes de l'Arizona plus tôt cette saison est extrêmement important pour eux, parce que l'acquisition de Dylan Strome, qui a fait 43 points en 46 matchs.
Il est parti en feu depuis qu'il est arrivé là-bas.
Ben oui. oui, absolument. Puis on peinait à lui trouver la bonne place avec les Coyotes de l'Arizona. Et c'est là où le travail des dépisteurs professionnels est important parce que c'est un cas, entre guillemets, de « buy low ». C'est un haut choix de repêchage, c'est un grand joueur de centre. Et les Blackhawks n'ont pas hésité à céder un… c'est des pourparlers qui ont quand même se sont étendus sur plusieurs mois. Ça faisait un an ou deux que les Coyotes de l'Arizona étaient intéressés à Nick Schmaltz. Mais ils n'ont pas été… Ils n'ont pas hésité à donner un gars qui avait fait 52 points pour eux la saison dernière, qui est un ailier en pleine progression, pour miser sur un joueur de centre qui allait pouvoir donc solidifier leur colonne vertébrale. Et là, ça paye énormément pour eux. Donc ça, c'est le genre de geste, le genre de transaction qui permet justement de rajeunir le groupe.
Acheter du temps aussi.
Oui, c'est ça. Puis de participer à ce reset-là. Même chose pour ce qui est de la signature d'Erik Gustafsson, un défenseur suédois, qui a 50 points depuis le début de la saison. Et ça avait été un choix repêchage des Oilers d'Edmonton. Ils n'ont pas trouvé le moyen de le signer. Et eux, ils l'ont ramassé comme joueur autonome. Ça a été un très bon flair parce qu'il connaît vraiment la grande éclosion cette année. Et là, on a peut-être, chez les Blackhawks, un digne successeur à Duncan Keith.
On prête l'intention aux Canadiens de vouloir faire la même affaire avec le jeune Américain Schuld, qui est un coéquipier de Pelling avec St. Cloud. Ces jeunes joueurs américains-là, Marc-Antoine, quand ils reçoivent un appel des Rangers, des Bruins, étant de jeunes Américains, on dirait qu'ils ne peuvent pas dire non. Est-ce que le jeune Schuld, l'idée de jouer avec Pelling, avec qui il a du succès au niveau universitaire, est-ce qu'il pourrait être séduit par le Canadien?
Oui, puis je suis certain également que Schuld a croisé un moment ou un autre Charlie Lindgren sur son passage. C'est des gars du Minnesota.
Parce que le Canadien est intéressé à lui.
Il n'y a aucun doute que le Canadien est intéressé à lui. En fait, il y a 29 des 31 équipes qui se sont manifestées auprès de l'agent ou en fait du conseiller familial, comme on le dit dans le jargon de la NCAA, auprès de, donc pour s'enquérir de l'intérêt potentiel de Jimmy Schuld à signer avec eux. Moi, ce qu'on me dit, c'est que Schuld va prendre son temps. Et même si, bon, à la fin du Frozen Four, St. Cloud se rende jusque-là, il ne se précipiterait pas à signer un contrat immédiatement. Il prendrait le temps de filtrer, de faire une première liste qui descendrait donc de 29 jusqu'à un groupe peut-être de 12 équipes. Et là, à partir de ce moment-là, évaluer ses options. Tu me dis, les grosses équipes comme Boston, les Rangers, c'est sûr que les Rangers, qui sont en eux-mêmes en reconstruction, ils donneraient l'occasion à un gars comme Schuld de rentrer dans l'alignement probablement dès la saison prochaine.
Le Canadien aussi.
Mais le Canadien aussi, c'est ça qui est intéressant parce que c'est un défenseur gaucher, il va arriver à 24 ans, il va être mûr pour rentrer dans la Ligue nationale immédiatement ou sinon après un court séjour dans la Ligue américaine, mais ça fait longtemps que le Canadien a les yeux dessus. C'est un joueur qui est venu à leur camp d'orientation en 2017, alors ils sont familiers avec Jimmy Schuld. Alors ça serait, si jamais le Canadien réussit à mettre la main sur ce défenseur-là, c'est sûr que ça va regaillardir leur groupe de défenseurs, parce qu'on le voit depuis quelques semaines, le Canadien a des difficultés à la ligne bleue.
Moi, j'essaierais de donner son numéro de téléphone à Shea Weber. J'essaierais.
Oui, ce serait une bonne idée. Comme mentor, il y a toujours... il y a pire que ça.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.